Bienvenue sur la balado d'Édouard, podcast exploratoire où à chaque production, je proposerai un récit d'événements sur des enjeux et sujets d'intérêt public qui m'interpellent. Au terme de l'exercice, je lancerai une production de balado basée sur les éléments retenus de ce mode exploratoire.
C'est olympien, c'est grandiose, honnête, je te le dis pas parce que t'es là, puis moi ça me jette à terre. J'en reviens pas que quelqu'un en 11 jours fasse tout ça sans presque pas dormir. Comment t'as vécu ta course?
Ben, écoute, c'était une expérience grandiose, là, ouais. Il faut le dire. Tu sais, évidemment, là, de faire partie d'une production comme ça, ben, tu sais, il y a tout ce qu'il y a autour, là, on était bien reçus, tu sais, bon, on était, tu sais, on l'a eu, c'était magnifique là-bas, tu sais, c'était très bien organisé.
Ouais,
toutes les informations qui nous étaient données, c'était extrêmement précis, c'était extrêmement clair, c'était bien monté.
Ouais.
Fait que, tu sais, écoute, au départ, en fait, l'embarcation locale, là, le Kamakau, là, c'est une embarcation... En fait, EcoChallenge a comme un... Tu sais, il y a une partie aussi de leur production qui est vraiment... aller chercher un peu dans la culture locale, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que ça, c'est des bateaux qui sont typiques là, de Fidji. C'est des bateaux ancestraux qui ont été bâtis spécialement pour la course.
Ça ressemble à un petit catamaran. Hein,
oui,
ça...
mais on avait une voile. OK? Puis l'idée, c'est qu'il fallait...
C'est comme dans Moana, pour ceux qui ont des enfants. Là, c'est le petit bateau que Moana apporte sur le ciel.
Je pense que c'est exactement ça. Et là, on devait utiliser la voile et faire de la voile. Mais là, on est parti. Puis aussitôt qu'on est arrivé sur l'océan, je veux dire, c'était le calme plat. Mais je veux dire... Les locaux, ensuite de ça, là, après, nous ont dit qu'ils n'ont jamais vu l'océan flat comme ça.
OK.
Puis, je veux dire, il y a des équipes qui ont essayé de monter leur voile parce qu'à un moment donné, ils étaient juste tannés de pagayer.
Oh.
Mais, écoute, finalement, ça n'a rien donné. Là. Fait que là, ben anyway, nous, on a pagayé tout le long. On ne s'est pas posé trop de questions. C'était pas super confortable comme embarcation. Là.
Non.
Tu sais, je te dirais, en course XP, en course d'aventure, il faut trouver un espèce de petit point de confort dans lequel tu dis « OK, je suis correct là. C'est pas l'affaire la plus confortable de ma vie, mais je vais être correct pour ce qu'il faut faire. »
Ouais.
Fait que, tu sais, évidemment, on avait amené un peu de padding, un peu de pour en mettre un peu autour où est-ce qu'on s'assoit, tout ça. Mais bon, puis... Mais tu sais, après ça, bon, les étapes s'enchaînent, puis tu sais, je te dirais pas que ça y va tout seul. C'est juste qu'on focus vraiment sur ce qu'on a devant nous et ce qu'on peut contrôler.
Ouais.
Fait que là, bon, on a fait le trek sur l'île, c'était super. Je pense que après, on est sorti de là assez bien. Hein. On était même à. Je pense qu'on était peut-être... on était facilement top 10, là.
Ouais.
Ensuite de ça, on est parti sur l'eau je te dirais qu'en stand-up paddleboard, c'était un petit peu en planche à pagaie. C'était un peu plus compliqué. C'était la nuit. Je pense que Mark est tombé à l'eau deux fois. Là, tu sais, parce qu'il s'endormait, en fait. Là, parce que qu'il a juste sacré le camp à l'eau.
Okay.
Fait que là, il a fallu dealer avec ça un peu. Après ça, en vélo, Lars a eu un peu de problème où est-ce que il y a eu comme une infection, peu une infection à la gorge, on a fait une crevaison. Tu sais, fait que c'est beaucoup, je te dirais, c'est de la résolution de problème. Fait que là, il faut dealer avec un peu n'importe quoi qui nous arrive, que ce soit quelque chose au niveau technique en vélo ou on a un bris ou quelqu'un ben, qui se fait mal ou qui commence à mal filer. Ben, tu sais, il faut s'adapter à ces situations-là et essayer de résoudre ces problèmes-là avec ce qu'on a, parce qu'évidemment, on n'a pas plein de ressources à notre disposition. ce qui nous a amené au camp 1, OK? Ouais. Parce qu'il y avait, il y avait cinq grandes sections, un peu ce que tu as décrit. Et entre chaque section, il y avait un camp, OK? Bon, c'est là où on rencontrait l'assistance et on devait rester dans ces camps-là 90 minutes, OK?
Oui.
Donc, il fallait rester. Fait que c'est un couteau à double tranchant un peu parce que 90 minutes, oui, c'est vite passé quand ça fait plus que 24 heures que t'es parti. Mais en même temps, c'est beaucoup de temps en termes de transition de course-expédition. Fait que là, évidemment, ben, on prend le temps de manger, on prend le temps de se changer, de gérer le stock, les bobos, etc.
Penses-tu que c'était pour la production de façon de ponctuer aussi le tournage, ponctuer la gestion de tout, l'opérationnel, les ressources? On s'entend, c'est une île, c'est la jungle.
Ouais, je pense que
Je pense que c'était peut-être une façon.
En fait, moi, je savais pas, mais c'est sûr, là-bas, on l'a... on s'en est rendu compte un peu. À Fidji, il y a beaucoup de tournages. L'industrie du cinéma à Fidji est très développée.
Oui.
Puisqu'il y a beaucoup de tournages là-bas. Je pense qu'ils ont beaucoup de... Ils sont bien organisés pour ça. Puis je pense que ça donnait l'occasion aussi de filmer et de catcher up avec les équipes qui étaient mises de l'avant et de filmer un peu leur transition, de peut-être faire des entrevues et tout ça.
Tu dis que c'est beaucoup une épreuve de un parcours, c'est beaucoup de résolution de problèmes, puis parce que quand tu regardes ça, t'as l'impression quasiment que c'est un sprint, mais dans le fond c'est un long marathon. Mm-hmm. Tu sais, nous, on voit tout ça séquencé, monter, là. T'as-tu l'impression que le temps va vite ou que le temps est interminable quand tu... tu dis résolution de problème. J'imagine qu'à un moment donné, tu dois plus savoir si c'est le jour, la nuit, t'es où. Ton moment le plus intense, parce que tantôt, j'ai donné le breakdown des choses, des moments de la course. Mais ton moment fort ou ton moment le plus intense, mm-hmm. c'était quoi dans cette course-là, dans tout ce que t'as fait?
Ouais, écoute, dans ce course-là, il y a eu, évidemment, quand on est arrivé à... En fait, t'as mentionné Vua Falls, là, la chute Vua, qui est extrêmement impressionnante, là, c'est sûr. Et en fait... Il y a toute la portion qui nous menait au pied de Vua Falls aussi, là, tu sais, qui n'est pas nécessairement décrit là-dedans, mais qui était magnifique. C'était une espèce de via ferrata dans l'eau un peu. C'était assez engagé quand même.
OK.
Et là, nous, on est arrivé là sur... on est arrivé au sommet de Vua Falls... Je pense qu'il s'est mis à faire noir, là. Fait que à ce moment-là, c'est la nuit qui est tombée. Puis en fait, là, ils nous disent, là, ils nous ont dit, « Oh, ça va être... There are a few puddles. »
OK.
« OK, a few puddles. » Fait que il y a un peu d'eau. Il y a un peu de flaque d'eau ici, là. Fait que, OK, mais on est correct. Mais on savait, ils nous avaient dit qu'à ce moment-là, là, il fallait être prêt à... C'était la portion qui était un peu plus haut, là. On était peut-être à 900 mètres à ce moment-là. Là.
OK.
Fait que c'était la portion un peu plus haute de l'île. C'était la portion en montagne, entre guillemets. Là.
Ça fait plus froid, j'imagine.
Fait qu'il faisait un petit peu... Ça avait le potentiel de faire un petit peu plus froid, même si il fait quand même chaud à Fidji, là. Fait qu'on avait quand même amené... On avait un manteau en duvet, là, qu'on avait amené. Et puis là, on se met à... On part du sommet de Vua Falls vers ce 9 km-là qui est supposé être un trek en rivière, mettons.
Ouais.
Mais écoute, on s'est vite rendu compte que la rivière... il n'y avait pas beaucoup de trek, mais il y avait beaucoup de nage. Et il y avait de la forêt de bambou de chaque bord qui était impénétrable. Et puis là, on avait vraiment pas d'autre choix que de juste nager de puddle en puddle où est-ce que la rivière, bon, elle s'ouvrait et elle se refermait un peu. Fait que
oh, c'est pas le segment de la rivière où il y a eu des hypothermies, là.
C'est exactement là.
C'est exactement là.
Et là, nous, on est passé là, c'était la nuit. Et écoute, c'est pas des jokes quand on voit les gens qui répondent plus trop là.
Non.
À la télé, là, on voit les gens qui ont extrêmement froid dans cette section-là. Écoute, c'est pas des farces là. On avait froid, on avait vraiment froid. Je te dirais, c'est la portion où est-ce que là, c'était vraiment engagé, puis c'était long là. Ça a l'air de rien là, mais c'était extrêmement long.
Sur papier, je pense que c'était 7 ou 9 km, j'ai dit tantôt.
Ouais,
rivière froide, mais ouais, on s'entend-tu que tu nages à 2 km/h, tu as un sac à transporter, tu vois rien, c'est la nuit.
Ça nous a pris la nuit.
Tu es tout mouillé.
On est sorti du bout de cette affaire-là.
Tu veux pas perdre le quatrième coéquipier dans la brume.
Exactement, là, mais écoute, moi, mes coéquipiers, là, je leur parlais, ils me répondaient pas, là. Fait que, on est arrivé au bout, puis Marc, c'est un gars costaud, solide, là, mais écoute, il me répondait pas, puis il a fallu que j'y prenne la main au bout. Là,
fait que ça a été tough.
C'est le bout, je te dirais, qui a été vraiment le plus challengeant pour nous, parce que là, on n'avait pas d'autre. S'arrêter, c'est pas une option parce que tu te réchauffes pas vraiment. On avait nos manteaux en duvet synthétique sur le dos, évidemment. On nageait, là. On avait de la taille, on avait de l'eau.
Tu déboutes dans la rivière, à un moment donné, où, sans vouloir abandonner, ou tu fais juste y penser. Hey, sans vouloir abandonner, mais juste dire... Pas de douter de tes capacités, mais dire... Ouais. Hey, juste, tu sais, ça t'effleure l'esprit 2 secondes, puis là, tu continues, puis non, je suis un trooper, j'avance. Puis
c'est sûr. Non, mais c'est ça...
ou juste d'être découragé au point où tu dis, là, écoute, je sais pas, chacun trouve son réconfort, sa façon de passer au travers des épreuves, mais ça peut être une épreuve. Il y a des gens qui ont plus la foi, peut-être, ou il y a des gens, je sais pas, qui vont penser à quelqu'un de proche, ou... Tu fais quoi dans ces moments-là? Ben, tu fais quoi pour te...
C'est vraiment ce qui est, je te dirais, c'est là où le fait que quand t'es en course expédition, t'es en équipe, puis des fois, tu fais pas les choses pour toi, tu le fais pour tes coéquipiers.
Ouais, je vois du temps.
Puis moi, je te dirais, faire ce genre de défi-là seul, ça m'intéresserait même pas, je pense. Parce que le fun et c'est quand on partage ces moments-là.
Oui, puis techniquement, par rapport au règlement de la course, c'est bien important, parce qu'il faut le clarifier, là. C'est-à-dire que tu peux pas continuer à 3, là. L'équipe, c'est 4, puis s'il y en a un qui décroche, c'est fini, là.
Oui, exactement.
Fait que c'est important, la synergie d'équipe, puis de s'assurer que tout le monde avance, puis c'est des décisions d'équipe. Justement, tu sais, il y en a, t'es passé au travers, t'as fini la course, je veux pas voler le punch là, parce qu'il y en a peut-être qui vont écouter l'émission, mais écoute, il y a des moments de catastrophe puis de drame là, je pensais jamais en voir autant, tu sais, c'est comme une émission de télé-réalité là, quasiment là, je veux dire, je vais t'en donner, ok, il y en a qui m'ont tellement frappé là, au début de la course, il y a, tu sais, on parlait d'épreuves comme toi, ce que t'as vécu dans la rivière, ta foi, mais toi, t'as pas décroché, t'as continué. Mais écoute, ça me surprend à quel point il y a autant d'équipes qui ont dû abandonner ou qui ont abandonné pour toutes sortes de raisons. Okay? Il y en a un au début de la course, un des tops, là, un courseur d'élite. Écoute, ça fait même pas 12 heures qu'il a commencé la course, qu'il fait un coup de chaleur. Son équipe le traîne en civière. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben voyons donc, le gars, c'est un top athlète. Ça fait même pas 24 heures qu'il course. Puis il fait trop chaud. Le gars, c'est pas sa meilleure journée. Il avait peut-être pas dormi la veille. Il y a aussi, je sais pas si tu viens, tu l'as vu après coup peut-être, ou t'as rencontré les gens là-bas, le capitaine d'équipe des Black USA, je ne sais plus du nom de l'équipe. Il a pogné un esti de débarque en vélo. Puis à un moment donné, ben écoute, son équipe est en avant, puis lui, c'est le capitaine. Puis là, ils sont comme, il est où? Ils reviennent en bas de la côte. Le gars, un gros colosse, là, je pense que c'est un vétéran de l'armée, si je me souviens bien. Il est genre, il est dans le clos, il est confus, son casque de vélo est craqué. Puis écoute, ils décident, ils ont pas le choix, là. Faut qu'il l'envoie à l'hôpital, il y a peut-être des contusions. Fait qu'ils ont pas le choix, ils abandonnent. Puis le reste de l'équipe peut pas continuer à se refaire une équipe avec les autres qui ont dont des membres ont lâché en cours de route, là. Puis ça m'amène au casting, c'est fou, là, dans Eco Challenge Fiji, là. Ils ont, des fois, ça me tapait ses nerfs, mais je comprenais le choix de la production, là, tu sais. Un autre cas, le monsieur qui fait de l'Alzheimer, il a décidé de faire la course avec son fils. Puis tout le long, on le voit rusher, il y a de la difficulté. C'est le plus vieux de la gang, là, sur les 66 équipes. Je sais pas, il y a 60 ans passé, là. Il fait de l'Alzheimer, en plus, le pauvre. Puis son gars est tout en train de brailler, puis de le porter sur ses épaules. Puis eux aussi, ils doivent abandonner, parce que, un moment donné, le monsieur, il pognait d'une rivière, puis il glisse ses roches, puis il est plus capable d'avancer. Mais c'est de même, coup après coup, des drames, des catastrophes. Quand tu connais quelqu'un qui fait la course mais que t'es pas là, t'sais, ça doit être inquiétant aussi un peu pour tes proches ou les gens qui savent dans quoi tu t'embarques. Toi, t'as beaucoup d'expérience, mais tu sais, ceux que je viens de te nommer, là, vétérans de l'armée, un des vétérans de ces courses d'expédition-là, de ces courses d'aventure qui en avaient fait une tonne avant, ils ont tout abandonné. Pour finir là-dessus, je me souviens à la fin de, je pense, le 8e épisode, tu vois les Japonais abandonner. Mais pourquoi qu'ils abandonnent? Écoute, il y en a deux dans l'équipe, là, c'est frappant. Ils ont les pieds ravagés, là. Ils ont des ampoules, les pieds en sang. Tu leur vois, écoute, tu leur vois même plus, je pense, la première puis la deuxième couche de peau. C'est ça en est en vomir, là. Puis je me souviens qu'il y en a une de l'équipe qui transporte son coéquipier jusqu'à l'hélicoptère en brouette, là, par les jambes. Il marche ses mains parce qu'il est plus capable de marcher parce qu'il est rendu à l'os quasiment, là. Tu sais, c'est comme puis je veux pas faire de catastrophisme, mais il y a quand même, il y a un certain risque à ces courses-là, là. Tu sais, je veux dire, que ça soit cardiovasculaire, que ça soit tombé d'un ravin, c'est pas de la petite bière, là, sérieux.
Non, c'est sûr que, en fait,
puis l'hypothermie,
On est toujours, en fait, je te dirais que l'hypothermie, on est toujours à risque, là, donc il faut toujours garder ça en tête, là.
Ouais.
Mais en fait, moi, je suis toujours surpris à quel point il y a peu de blessés dans les courses versus les risques qu'on prend.
Ben, tu sais, il y a une sélection préalable. C'est sûr que les gens qui se rendent là, c'est l'élite mondiale, c'est les courses les plus tough de la planète.
Oui.
Ils ont beaucoup d'expérience.
Oui. Mais à Fiji, il y avait quand même certaines équipes, je te dirais, que on se doutait qu'ils allaient être très challengés.
Moins d'expérience, mais...
Mais bon, ça faisait partie de la game aussi. Mais tu sais, tu parlais des Japonais là, qui ont eu deux membres qui ont eu des infections au pied. Mais ça aurait pu nous arriver aussi, là. Mais en même temps, on avait, tu sais, c'est ce qu'on appelle le en anglais, c'est le jungle foot rot, là.
Okay.
Tu sais, fait que ce genre d'infection là, ça arrive dans la jungle quand tu te promènes dans le boue, dans l'eau, tout ça. C'est sûr que t'es à risque. Puis on l'était tous. Puis tu sais, on a tous eu les pieds qui nous piquaient à un moment donné, là. Ça, c'est sûr. Oh,
ouais, fait que ça fait partie de la game.
Puis à un moment donné, Karine qui est ma coéquipière, mais il y a une section justement dans les hautes terres, dans les Highlands, où est-ce que Karen s'est mis à avoir extrêmement mal aux pieds et ça lui piquait beaucoup. On avait des crèmes pour ça, tu sais, on était quand même équipés, mais elle a fait un très long trek avec en bas et elle pouvait pas supporter ses souliers. Fait que là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais quand un coéquipier qui peut pas, il peut même pas mettre de souliers, mais là, on track. On n'est pas dans la jungle, on est quand même dans les Highlands, là, dans les hautes terres. Là, mais, fait que, tu sais, mais je veux dire, tu marches quand même du pied. Là.
Ouais.
Fait que
ouais.
Là, tu sais, on
c'est pas le Mont-Royal, là. Tu sais, il y a des serpents, des tarentules, il y a des insectes, il y a des virus, des bactéries qui sont en guillemets exotiques ou avec lesquels t'es moins familier, t'as peut-être pas eu les vaccins pour, tu sais,
c'est certain, mais tu sais, ce bout-là, tu sais, nous, ça nous a affecté jusqu'à un certain point, mais bon, encore une fois, on s'est dit, OK, on fait quoi avec ça? On deal avec ça? Puis, tu sais, même, je me souviens... je veux pas vendre le punch non plus, mais tu sais, t'as Nathan qui est, je te dirais, le meilleur coureur au monde, là, le plus...
La Nouvelle-Zélande, l'équipe de...
sans doute un des plus décorés, je dirais.
Ouais.
Mais tu sais, je me souviens que Nathan a déjà fait une course en Espagne où est-ce que il n'y avait pas de souliers ou, bref, il y avait eu un problème de logistique. N'a pas ses souliers après une section de vélo. Ils doivent partir sur un très long trek. Ben, tout le monde dans l'équipe a enlevé la semelle de son soulier. Puis, tu sais, c'est un gars qui chose du 12, là. Tu sais, okay, facile, okay. Là. Tu sais, c'est un grand costaud.
Ouais.
Fait que tout le monde dans l'équipe enlève sa semelle. Fait trois semelles d'épais et Nathan met ça dans ses bas et tape les bas s'est fait un espèce de padding comme ça pieds pour pouvoir faire son trek, tu sais. Oui, on est challengé à plein de niveaux, mais le fait d'être en équipe, ça nous permet de trouver plein de solutions, ce qui qu'on trouverait pas si on est tout seul. Quand on est tout seul, confronté à de l'adversité, c'est difficile des fois de changer notre pattern de réflexion et de vision ou d'approche par rapport à un problème, alors que quand on est en équipe et qu'on est ouvert aux idées des autres, bien souvent, on arrive à trouver une solution qui va nous permettre justement de passer ce trek-là pour arriver au prochain vélo. T'sais? Parce que souvent, on voit ça, 60, 50, 100 km, OK, mais je te dirais qu'on les prend un à la fois. Les prend un à la fois parce que, faut pas se laisser impressionner ou se laisser, c'est facile de juste se dire « shit, je serais pas capable ». C'est sûr, moi si je regarde ça puis je vois que c'est 650 km, je suis comme « oh boy, ça va être une grosse commande, hein ». Mais écoute, je me dis tout le temps « regarde, on commence par le premier leg, puis après ça, je veux dire,
le reste va suivre. » C'est sûr, je dirais pas qu'il a gagné la course, mais en fait, je me demandais, faut pas dévoiler de punch, là, je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir après coup. Comment je pourrais te demander ça? Es-tu satisfait de ton score de l'équipe? Écoute, je sais pas à quel point tu te fixes des objectifs, mais t'es-tu content du rang que t'as obtenu pour cette course-là?
C'est sûr qu'on s'était fixé un objectif. On se fixe toujours un objectif, là.
Ouais.
Qu'on le dise ou pas.
Non, mais déjà, de faire la course, je sais que t'as beaucoup d'expérience pis dans l'élite des courseurs de courses d'aventure, mais je disais que pour la Patagonie, c'était 55% de taux de réussite. Là, t'as la moitié des équipes qui finissent même pas la course. Ouais. Fait que déjà là... je vois ça d'un œil plus. Ouais. Si je commençais à faire des courses comme ça, je me disais juste de finir. Mais à ton niveau, tu as atteint tes objectifs ou y a-tu des choses que tu dis « Ah, ben, peut-être que ça, je le referais autrement ou ça, je... »
Écoute, pour Fiji, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ferait autrement.
Ouais.
C'est certain. En fait, il y a pas une course qu'on se dit qu'on ferait pas les choses autrement. Ouais. Mais bon, évidemment, on avait certains objectifs. Mais je pense que on est content de ce qu'on a accompli. Ouais. On est ressorti de là. Je te dirais, on était content. C'était une belle expérience. Ouais. On y allait. Oui, on y allait dans l'idée de performance, entre guillemets, mais on était aussi conscient de nos forces et nos faiblesses. Et, c'est comme, en fait, n'importe quelle course expédition, là, arriver au bout, c'est déjà une réussite. Moi, ça a toujours été ça, mon approche. Après ça, ce qui vient au-dessus, la performance, les expériences et tout ça, c'est tout du bonus. T'sais.
J'ai l'impression que, tu sais, quand tu vois les gagnants à la fin, tout ça, je sais pas si je me trompe, là, pis c'est peut-être bien naïf ce que je veux dire, mais les gens, ils vont là pour faire performer, mais les gens, ils vont là pour l'expérience, ils vont là pour partager, ils vont là... Je vois pas l'espèce d'image que je vois des fois à la fin de certaines autres courses que je nommerai pas, ou... « Ah, tu sais, I'm the winner, les bras dans les airs, puis l'espèce de pas d'ego, mais d'une fierté un peu trop, les bras dans les airs, puis, tu sais, en tout cas, je voyais les équipes arriver au fil d'arrivée, c'était comme juste, waouh, tout le monde est content, puis sans faire de l'angélisme, là, mais, tu sais, je voyais pas cette espèce de il y avait une certaine pudeur, c'est ça que je veux dire, par rapport à arriver, gagner, puis... Tu sais, je sais pas si tu décryptes un peu ce que j'essaie de dire, puis ça m'a surpris. J'étais comme, hey, le gars, il est le meilleur au monde. Tu parlais de Nathan, puis il y avait une espèce de retenue, puis t'es comme, oui, fier, un beau sourire, tout ça, mais c'était pas, je suis le vainqueur, puis tu sais, ça m'a comme surpris, puis en même temps, non, je dis, ok, c'est un genre de culture comme ça, un peu dans les courses d'expédition, d'aventure.
Ça fait partie de la culture, je te dirais, parce que, tu sais, c'est pas toutes les équipes qui s'alignent au départ qui ont l'objectif de gagner podium, top 5, top 10. La plupart des équipes, l'objectif, c'est d'arriver au bout. Fait que tu as 10 équipes qui vont se battre pour... qui ont le potentiel de se battre pour le top 5. OK? Puis t'as, je te dirais, 4 équipes qui ont le potentiel de gagner. Fait que là, à ce moment-là, ben tout le restant, tout le monde qui arrive au bout, tout le monde est heureux parce que ils ont une histoire.
C'est une expérience humaine. C'est
arriver
raconter,
au bout,
c'est
ça veut dire que t'as résolu plein de problèmes. T'es allé au bout de toi-même. T'as maintenant tes coéquipiers, la plupart du temps, c'est rendu tes meilleurs amis. T'as fait des rencontres culturelles incroyables en cours de route.
On est loin du podium de la F1 avec le champagne, les confettis et les pitounes. Non, mais je donne cette image-là parce que c'est ça. J'ai bien aimé la fin où c'était pas de façon outrancière démontrée. Puis j'imagine l'énorme respect par rapport aux gagnants.
Mm-hmm.
Tu sais, il y a un respect, il y a une admiration, mais...
Ah ouais, non, mais...
Tu sais, Nathan, c'est un demi-dieu, là.
Oui, absolument.
C'est ma compréhension, là, tu sais, c'est dans tête des gens, là.
Puis, en fait, leur équipe, c'est un peu une équipe mythique, là.
On les
considère toujours un peu à part, mais... mais tu sais, c'est des gens qui demeurent accessibles, là. Moi, c'est des gens avec qui j'ose à l'occasion, là, fait que...
Parfait. Fait que on a couvert la course de la Patagonie, la course la plus sauvage au monde. Ensuite, on a couvert l'Eco Challenge 2019, la course la plus tough. Si je le traduis en québécois, la toughest race on earth. Ta prochaine course, c'est laquelle? Est-ce que tu as l'intention d'en faire une prochainement ou dans les années à venir?
Je te dirais que cette année, on a eu une année extrêmement chargée pour plein de raisons. Il y avait une course en juin qui s'appelle Expédition Canada, qui était dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. On a gagné cette course-là et ça nous a gagné, en fait, le prix, la première place. On a gagné une invitation au championnat du monde qui est au Paraguay en septembre.
C'est dans quelques jours.
On part le 13, en fait. On arrive là avec une bonne préparation, correct. Je te dirais que c'est pas le genre d'environnement qui me fait triper tant que ça, mais bon, là, ça donne que c'est là. On a l'occasion d'y aller, fait qu'on... Après y avoir pensé un peu, on s'est dit « OK, je pense qu'on devrait y aller, on va avoir du fun ». Fait qu'on y va avec l'esprit ouvert, mais on est bien préparé, puis on va voir, ce qu'on peut faire là-bas.
Tes objectifs pour cette course-là?
Ah, non, mais c'est les objectifs. Je pense que top 10 au championnat du monde, c'est quand même appréciable.
Ouais.
C'est à la fois réalisable, puis ouais. C'est à la fois, on serait super content avec ça. Fait que pourquoi pas, mais si c'est pas ça, c'est pas la fin du monde et il va en avoir d'autres.
Ouais. Ben bon courage, puis je te souhaite pas trop de temps chaud. J'imagine que c'est ça qui va être dur là-bas sur pas loin de l'équateur. Il doit faire quand même assez chaud là-bas.
C'est un peu ça qu'il va falloir gérer là-bas.
Ouais.
Fait que
ben du hot yoga d'ici ce temps-là, puis question de se
ouais.
Bon, ben super. Merci, Alexandre Provost, de t'être joint à moi à la balado diffusion d'Edouard, le podcast d'Edouard. En fait, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Si on veut te suivre, je vais partager vos liens, l'équipe Ben Racing, puis on pourra te suivre pour ta prochaine course.
Et, super.
Tout ce qui s'en vient. Merci encore.
Merci à toi, Ed.
Merci d'avoir écouté la balado d'Edouard. À chaque production, je proposerai un récit d'événements sur des enjeux et sujets d'intérêt public qui m'interpellent. Au terme de l'exercice, je lancerai une production de podcast basée sur les éléments retenus. Je vous invite à suivre la balado d'Edouard sur SoundCloud, Instagram, Reddit et la balado du Québec. Au plaisir de s'y retrouver.